après la présentation assez large qu'a faite Françoise, je vais proposer un axe de réflexion. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste hein, de la question du travail, de l'activité, de la pratique enseignante, d'autres choses. Mais dire un petit peu, dégager une piste que les travaux de l'équipe là me suggèrent. J'ai envie, à partir de l'exposé de Françoise et à partir d'autres travaux d'elle que j'ai lus, de relire un ouvrage assez classique d'Albert Hirschman qui s'appelle « Exit, Voice and Loyalty ». Je le cite en anglais parce qu'il en existe une traduction française mais qui est tellement mauvaise, qui s'appelle « Face au déclin des entreprises et des institutions », mais qui est une espèce de suite de faux sens. Hein. Je ne sais pas du tout que je sois un excellent angliciste, mais il vaut mieux lire l'ouvrage en anglais, parce que la traduction est vraiment un vrai piège. Hirschman est donc à la fois sociologue et un petit peu économiste, et l'enjeu de son livre est de trouver une espèce de typologie des rapports entre les personnes et les institutions. Et donc, ça tourne autour de trois types de rapports. Bon, loyalty, c'est donc l'adhésion, c'est on entre dans le système, on entre dans le jeu, on en intègre les valeurs, les règles du jeu, etc. Voice, c'est donner de la voix, c'est protester, c'est dénoncer ce qu'il y a d'injuste, d'irrationnel, etc. dans cette institution. Et puis, exit, c'est plus inspiré de l'économie que véritablement de la sociologie, parce que dans le jeu social, l'exit, l'exit, c'est donc le retrait. Hein. Alors, le retrait du jeu social est toujours limité, même au IVe siècle, lorsque des saints stylites montaient en haut d'une colonne et priaient en haut d'une colonne pour faire leur salut. Eh bien, la vie des pères du désert nous raconte que la foule venait les entendre prêcher et qu'ils faisaient descendre un petit panier de temps en temps dans lequel on mettait à manger et le saint stylite remontait de quoi manger. Donc, l'exit dans le jeu social rencontre sa limite. Alors, ce travail d'Hirschman, qui est un travail tout à fait fondateur hein, pour la sociologie pragmatique, et spécialement celle de Boltanski dont je me réclame. Ce travail est un petit peu ancien, hein, il a été publié en 72, et j'ai envie de le relire dans une conjoncture où la gestion, le management a beaucoup récupéré les résultats des sciences sociales et spécialement la sociologie critique. Hein. Alors c'est une démarche qui ne m'est pas propre, hein, mais beaucoup de gens ont remarqué que, par exemple, on évoquait le taylorisme et la critique du taylorisme. Bon, une grande partie de la critique du taylorisme, c'était de mettre en évidence que, dans la plupart des cas, aucune entreprise ne pourrait fonctionner sur le simple respect de l'organigramme, de la définition des tâches, et qu'il faut bien sûr que les personnes mettent du leur, prennent des initiatives, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les nouveaux référentiels de compétences ou d'évaluation, y compris ceux qui sont proposés pour les enseignants, mais les enseignants ne sont pas les plus touchés, ces capacités, prendre des initiatives, communiquer, travailler en équipe, faire face à des imprévus, etc. Ces capacités sont devenues des obligations. Et en quelque sorte, la critique du taylorisme qui avait été faite dans un but de libération des capacités de la personne devient un instrument, si ce n'est d'oppression, du moins un instrument d'encadrement, d'évaluation, parce que bien sûr, après cette évaluation, ben, vous êtes jugé formable ou formable, adaptable ou pas formable et adaptable, et ça a évidemment après des conséquences sur ce qui va vous être offert en matière de formation, d'évolution. Et puis, ma foi, si on est dans le privé et qu'il y a des compressions de personnel, on va plutôt se débarrasser des gens qui sont plus flexibles, plus adaptables, etc. Donc, il m'a semblé intéressant de relire le livre d'Hirschman dans cette nouvelle conjoncture qui touche le travail en général, mais qui touche un peu plus spécialement l'enseignement. On voit bien les problèmes de la critique aujourd'hui, lorsque, par exemple, on essaie de formuler un certain nombre de critiques contre ce qui pourtant n'est pas si dominant en France, mais enfin contre les risques de marchandisation, etc. Bien très vite, on risque d'être assimilé à un jacobin ringard qui veut garder une forme d'État centralisé, qui est fermé à la demande sociale, aux droits des parents, etc., etc. Donc il y a une véritable difficulté. Or ces critiques l'indifférence aux différences, etc., c'est des critiques qui viennent bien des sciences sociales et en particulier de la sociologie. Donc il y a bien une difficulté justement à donner de la voix, à protester dans ce contexte. Alors reprenons Exit, Voice, Loyalty. Quelle est la situation? Loyalty, les enseignants sont quand même des fonctionnaires ils sont obligés de se situer au moins en partie du côté de l'adhésion. La preuve en est d'ailleurs que les élèves apprécient peut-être un professeur qui prend des libertés, mais considèrent facilement comme cinglé un professeur qui prend justement trop de libertés. Enfin, il y a une frontière qui est peut-être pas très difficile, qui n'est pas très facile à définir, mais enfin, quelqu'un qui n'adhère nullement à sa fonction apparaît suspect. En même temps, et là c'est quelque chose sur lequel Françoise a beaucoup travaillé, ils ne peuvent pas adhérer totalement à la définition de leur fonction, puisqu'ils sont bombardés d'une avalanche de prescriptions qui, alors, souvent ne correspondent pas à l'état du terrain, qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre telles quelles, et puis qui en plus d'ailleurs sont parfois contradictoires. C'est-à-dire que quelqu'un qui tenterait de mettre en œuvre toutes les prescriptions deviendrait fou parce que ces prescriptions sont elles-mêmes composites. On sait très bien comment sont faites les instructions officielles. Il y a un premier schéma qui, dans la meilleure hypothèse, a une certaine cohérence, et puis après ça circule entre différents bureaux du ministère, les inspections, les rectorats, les syndicats, etc. Et on bourre, on rajoute des paragraphes, etc. La cohérence n'est pas toujours parfaite à la fin. Si vous regardez, moi j'ai analysé comme ça les textes sur l'autonomie de l'établissement, il y a au moins trois définitions de l'établissement. Un comme service social de proximité, un comme entreprise performante et bien gérée, un comme service performant sur un marché, hein, qui convainc. Bon. Alors, comment vous faites lorsque vous êtes chef d'établissement pour gérer des prescriptions qui sont finalement dans trois mondes différents? Donc, on ne peut pas adhérer totalement à la prescription. Alors, comment réagir? Alors, il y a une réaction, évidemment, dans la souffrance. On est déchiré, on dort mal, on est anorexique, on fait des zonas, etc. C'est ce que Françoise étudie avec la MGEN. Non, provocation.
suis telle de canard, la plus tendre.
Et puis, il y a des tas d'autres positions. Dans certains cas, on voit les enseignants élaborer une espèce de théorie spontanée de la résistance civile. Ils n'ont pas forcément lu Thurot, mais comme justement c'est des professions qui ont un certain niveau d'études, ils se sentent tout aussi autorisés que le ministre ou l'inspecteur à donner une définition du bien, à donner une définition de l'intérêt général. Et donc... En plus, l'inspecteur, le ministre, il passe, alors que le prof, il va être là pendant un certain temps face à ses élèves. Donc, ils élaborent, une théorie spontanée de la résistance civile. Ils ne se mettent pas en contradiction brutale avec les instructions officielles, mais ils font ce qu'il leur semble bon et ils ont leur conscience pour eux. Et sans aller jusqu'à la théorie de la résistance civile, il y a cette multitude de compromis entre les injonctions nationales et les contraintes de situation, et de plus en plus les évaluations internationales et les contraintes de situation, puisque c'est peut-être un peu moins vrai en France, mais il y a des pays où, par exemple, les résultats de PISA ont été extrêmement dramatisés, et où, bien entendu, si vous êtes un enseignant belge francophone, du secteur public, étant donné que les résultats à PISA sont meilleurs en Belgique néerlandophone qu'en Belgique francophone et meilleurs dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public, si vous êtes un francophone du secteur public, vous avez intérêt à vous mettre en ordre de marche pour dans 4 ans avoir des bons résultats à PISA. Donc il faut... Il y a toutes sortes d'univers de contraintes qui peuvent jouer. Et donc, je crois que ces multiples normativités intermédiaires sont extrêmement intéressantes. C'est un point sur lequel on pourra revenir à propos du travail de Françoise, dans la mesure où ça oblige à reformuler en même temps et un peu au nom des mêmes principes des questions d'organisation, des questions de contenu et donc d'interprétation des programmes, et des questions de discipline, de rapport entre les jeunes et de faire tenir tout ça ensemble. Et je crois que c'est un des grands intérêts de ces nouvelles normativités, d'obliger à penser ensemble des choses qui, alors au niveau des prescriptions, ont été pensées dans des univers totalement différents. Mais il faut bien, au niveau de la classe, les penser ensemble. Alors la protestation, Voice, c'est bien ce que... se heurte à différentes difficultés, même dans une profession comme la profession enseignante qui est relativement protégée et où le syndicalisme n'est pas complètement sanctionné, etc. Les difficultés sont plutôt celles d'une société critique. Toute critique suppose une définition du bien, suppose de s'adosser à une définition de ce qui devrait être. Or, nous sommes aujourd'hui dans une société critique où toute proposition a déjà été critiquée et toutes les ressources sont à la disposition de l'opinion, ressources en termes de références philosophiques, en termes de statistiques, en termes d'exemples, comme on disait au Moyen-Âge, etc., pour montrer que si vous dites l'important dans l'enseignement, c'est d'être juste, de donner à chaque élève ce dont il a besoin, etc., vous avez toutes les critiques, disons, plus ou moins forgées par l'économie néolibéral qui va vous dire attention à l'égalité, c'est bien, mais vous savez, on est dans une compétition internationale et si la place de la France décline dans la compétition économique internationale, et bien tout le monde en porte supportera les conséquences. Et c'est les plus petits qui en souffrent, évidemment, le plus. Donc, ayons d'abord un enseignement efficace, des cadres performants, etc. Puis l'égalité, on verra. Enfin, et etc., etc. Enfin, on est dans une société critique. Toute proposition a déjà été critiquée. Et il y a vraiment, d'une certaine manière, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton. Vous avez toutes les ressources qui sont là, que ce soit citer des rapports de l'OCDE, que ce soit sortir des chiffres, etc., etc. Et donc, il y a une véritable difficulté à donner de la voix. Quant au retrait exit, le retrait complet est impossible, justement, en particulier à cause de ce que vient de dire François, ce qui est l'importance de l'effet de présence. Si en classe vous êtes trop retiré, ça va très très mal se passer. Il faut être là. Cela dit, un exit, je dirais, négocié tente beaucoup d'enseignants, c'est-à-dire une espèce de limitation des risques en classe et un déplacement des investissements vers la vie personnelle. C'est une chose qui tente beaucoup de gens, alors qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, mais enfin. Alors, comment traiter cette difficulté de la critique, en particulier dans le cadre de l'activité enseignante? Il me semble que une des voies est d'identifier aussi bien les nouvelles formes de souffrance qu'entraîne la nouvelle organisation du travail que récupérer les arts de faire qui, justement, permettent d'aménager les situations de façon un petit peu, à peu près vivable. Alors, le premier problème, évidemment, c'est de repérer ces nouvelles formes de souffrance et ces arts de faire. Et le second, c'est de leur donner une forme conceptuelle. Alors, le projet est ancien. Il remonte à la fin des années 60, début des années 70, lorsque un certain nombre de jeunes chercheurs, historiens, beaucoup d'historiens, quelques sociologues, des anthropologues, ont mis en cause les philosophies sociales un petit peu déterministes que portaient le fonctionnalisme, le structuralisme et le marxisme, à supposer qu'il y ait eu du marxisme en France, ont proposé de porter le regard sur toutes les formes d'intelligence rusée, d'art de faire, qui aménagent les situations et parfois, quand on est optimiste, retournent la puissance de la domination contre elle-même. C'est le célèbre livre de Détienne et Vernant sur la métisse, sur l'intelligence rusée, qui permet, par exemple, à Ulysse de retourner la force du cyclope contre lui-même. Et il y a toute une tradition dans la littérature populaire, c'est le roman de Renard, c'est des tas de choses. Les forts sont forts, mais les petits sont malins. Et ils arrivent à, parfois, à retourner la puissance contre elle-même, en utilisant en particulier justement ces contradictions entre les principes, en utilisant aussi les rivalités qui divisent les puissants entre eux, etc., etc. Il y a donc... Alors, un certain nombre de démarches, comme celle de De Certeau, qui avait écrit deux très jolis livres sur les arts de faire, était peut-être un petit peu optimiste, parce que, le roseau qui plie sous la tempête va mieux résister que le chêne, mais enfin, la domination reste la domination. Il ne faut pas non plus rêver. Ces rues, ces arts de fer rencontrent des limites. Aujourd'hui, un certain nombre de sociologues, en particulier Laurent Thévenot, tentent de reprendre la question dans un cadre épistémologique contemporain. Laurent Thévenot essaie de conceptualiser ce qu'il a, enfin, une nouvelle forme de lien social qu'il réfère aux politiques du proche. Alors, pour reprendre le titre de la mauvaise traduction du livre de Hirschman, face au déclin des entreprises et des institutions, c'est-à-dire face à ce qu'on appelle quelquefois la crise du politique, hein, le fait que les acteurs sociaux ne voient plus bien le lien entre ce qu'ils vivent au quotidien et puis les grandes questions débattues au sommet de l'État, et que donc ils désertent les partis, les syndicats, les églises officielles, etc., qui sont justement les dispositifs qui assurent ce passage normalement entre ce passage entre le particulier et le général. Mais en même temps, on voit se développer des coordinations où les personnes gardent leurs attaches locales et particulières, ne rompent pas du tout, ne construisent pas la mobilisation en désingularisant, gardent des attaches locales et particulières, mais en même temps se mobilisent bien pour un intérêt général. Et un intérêt général dans lequel le bien n'est pas non plus défini par catégorie, c'est-à-dire que ces coordinations que, par exemple, Yves Duterte et Claudette Lafaille ont observées pour le maintien d'écoles en ZEP, certes, nous qui sommes des sociologues sectorisés, nous avons étudié la question du maintien des écoles en ZEP, mais la coordination, elle travaillait aussi bien sur la vie du quartier, sur les transports, sur l'habitat, etc. Elle s'est trouvée à un certain moment travailler sur le maintien des écoles en ZEP, mais elle n'était pas du tout spécialisée dans cet aspect sectoriel. C'était une coordination d'habitants, usagers, citoyens, parents, tout cela. Alors, il me semble qu'une des manières justement de redonner du sens, aussi bien d'ailleurs à la voix qu'à la loyauté, qu'à l'engagement, c'est de s'interroger un petit peu justement sur ces politiques du proche. Et nous avons pour cela des outils, parce que ce que Thévenot essaye de conceptualiser sous le terme de politique du proche a longtemps été prescrit, alors là d'une façon très, très normative, par le militantisme pédagogique, sous le nom en particulier de communauté scolaire. C'est-à-dire construire un militantisme global qui ne sépare pas en particulier l'école de son quartier, et où les gens se mobilisent tout en gardant les liens locaux qui les unissent. Il y aurait toute une archéologie à faire de cette notion de communauté scolaire et de ses liens avec l'accueil des familles d'origine populaire. J'ai essayé personnellement de travailler une généalogie qui m'apparaît être largement d'origine chrétienne. C'est-à-dire que l'origine, enfin, dans les fils que j'ai pu reconstituer, l'origine, c'est le travail des prêtres ouvriers dans les paroisses populaires. On leur reproche justement et très fortement à ces prêtres ouvriers de s'occuper de questions qui ne sont pas de leur ressort, de s'occuper du travail, du droit du travail, surtout de s'occuper de ce qu'on appelle encore pudiquement dans cette période d'après la Deuxième Guerre mondiale, le planning familial, c'est-à-dire la maîtrise de la fécondité. De s'occuper aussi éventuellement de questions de droit, d'habitat, etc. Et eux répondent que cette espèce d'approche catégorisée où on s'adresse aux prêtres pour les besoins spirituels, aux banquiers pour l'argent, aux juristes pour le droit, aux médecins pour la santé, etc., etc., cette approche catégorisée, elle caractérise des bourgeois qui ont une culture ordonnée. Que les familles populaires, elles, ne catégorisent pas comme ça leurs problèmes, qu'elles ont un peu tendance à les déballer tout à trac, et que dans ce cas-là, il faut qu'il y ait justement une équipe, alors paroissiale pour des prêtres ouvriers, mais enfin, une équipe qui soit multidisciplinaire et qui soit capable d'entendre tous ces problèmes, ensuite éventuellement de les orienter vers des spécialistes et de trouver des traitements spécialisés. Mais dans un premier temps, il faut pas trier. Et cette idée, d'où l'idée donc de communauté paroissiale, où il y a des prêtres, bien sûr, mais qui sont de formations différentes, qu'il peut y avoir des médecins, qu'il peut y avoir des juristes. Et cette idée passe dans les années 50 dans la médecine d'abord et spécialement dans la médecine psychiatrique avec l'idée de prise en charge communautaire et passe ensuite dans l'éducation, alors sans doute par le truchement de mouvements comme les CMEA qui ont à la fois un secteur santé hein, et surtout santé psychiatrique et un secteur éducation, sans doute aussi par ce qu'on appelle les chrétiens de la laïque, hein, dont l'influence en termes de fournisseurs d'idées est souvent considérable. Et on va retrouver cette idée de communauté justement associée à la création des premiers foyers socio-éducatifs qui, justement, se font dans ce qui va devenir les lycées professionnels, mais qui est encore, dans les années 50, les centres d'apprentissage créés par le maréchal Pétain, hein, et qui vont évoluer, qui vont changer de nom à peu près tous les 4 ou 5 ans pour devenir les lycées professionnels. Alors, personnellement, je trouve intéressant de reprendre en quelque sorte cette démarche qui a, il faut bien le dire, échoué hein, dans le domaine du militantisme. Bien qu'on retrouve de temps en temps le terme de communauté scolaire lorsqu'il s'agit des établissements, on ne peut pas dire que les établissements soient des communautés scolaires et que les projets d'établissement manifestent l'existence de communautés scolaires. Mais il me semble intéressant de reprendre au point de vue conceptuel cette expérience qui a échoué au plan militant et d'essayer de se demander mais quelle est la nature de lien social, quelle est la nature de lien social à travailler entre les personnes pour que ce type d'idéal de communauté scolaire, ce qui peut être d'ailleurs communauté de quartier, enfin ou autre chose, bon, mais que cet idéal communautaire prenne vie. On en voit quelques exemples, mais en général dans des coordinations qui ne durent pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est condamné à ne pas durer longtemps? C'est possible, mais... En outre, j'aimerais éclairer cette réflexion sur une sorte de nouvelle forme de lien politique par une revisite des théories de la résistance. Alors pour cela, je m'appuierai beaucoup plus sur l'expérience des élèves que sur l'expérience des enseignants. Enfin, ou plus ou moins, il me paraît important de s'appuyer sur l'expérience des élèves pour penser une partie de l'expérience des enseignants. Les enseignants, comme je l'ai dit, sont quand même des fonctionnaires et se tiennent tenus par une certaine obligation d'adhésion et de loyauté. Les élèves, eux, se sentent beaucoup moins tenus et vous connaissez peut-être les travaux de de Patrick Fayou sur ce qu'il appelle la cité invisible, c'est-à-dire parfois ce qu'il appelle aussi la logique du squat, c'est-à-dire que dans l'établissement scolaire, il y a certes des enseignants et des professeurs, mais laissons de côté les établissements difficiles où il y a des relations très tendues entre enseignants et professeurs. Même dans les établissements, disons, tranquilles, où il y a une apparence de relation assez fluide, est-on sûr que les enseignants et les élèves vivent bien dans le même monde? Ou est-ce qu'il n'y a pas deux mondes, et puis un certain nombre d'arts de prudence, hein, comme on disait au Moyen-Âge et à la Renaissance, hein, d'arts d'évitement, de politesse, etc., qui font que les deux mondes ne se heurtent pas frontalement, et que les deux mondes peuvent vivre ensemble sans que jamais personne ne demande l'épreuve en disant « Moi, voilà quel est mon monde, je promeus ces valeurs et je demande le jugement de Dieu pour se dire quelles sont les meilleures valeurs, les tiennes ou les miennes. » Patrick identifie justement chez les élèves un type de lien qu'il appelle la philia, d'après Aristote, hein. C'est-à-dire l'amitié, hein, mais évidemment, c'est la filia vertueuse, hein, ça n'est pas la filia mafieuse, c'est-à-dire l'amitié de la combine, c'est une filia vertueuse où l'on peut justement travailler pour le bien commun tout en se connaissant, tout en ayant des liens particuliers entre soi. Et un autre de nos collègues qui travaille dans l'UMR, Christophe Hellou, prolonge cette réflexion en s'intéressant à ce que de Certeau, justement, aurait appelé les arts de faire. Et il formule ce qu'il appelle une théorie de la résistance. Alors, résistance, là, est pris dans un sens totalement différent de celui que lui donne la sociologie anglo-saxonne. Hein. Si vous prenez le livre de Willis ou les travaux de Giroux, ce sont, disons, des marxistes anglais ou américains. Pour eux, théorie de la résistance, c'est les enfants d'origine populaire sont porteurs d'une culture très différente de celle de l'école, une culture qui est en particulier, qui peut être caractérisée en particulier par le machisme, le racisme, enfin, etc., et qui résiste à la culture de l'école. Christophe Hellou ne prend pas du tout résistance dans ce sens-là. Il va le prendre dans un sens qui est plutôt celui du freinage de la production de la tradition ouvrière, c'est-à-dire toutes sortes de techniques qui, en situation, sans s'opposer explicitement, résistent quand même, freinent le rythme en posant tout le temps des questions, en disant « Ah, mais c'est pas clair, ah, j'ai pas bien compris quel est le travail », négocient évidemment la quantité de travail, « Ah ben non, c'est trop, on peut pas pour telle date, etc. etc. » négocient évidemment l'évaluation, « Ah non, là c'est pas juste, etc. etc. » Donc, toutes sortes de techniques qui s'apparentent un petit peu à ce qu'était le freinage de la production dans la tradition ouvrière et qui vont justement freiner, amener toutes sortes de négociations sur l'évaluation, sur la quantité de travail, etc., etc. Et donc qui est des choses qui, au bout d'un certain temps, quand on suit justement la vie d'une classe, peut amener à des reformulations assez profondes de la définition des contenus, des règles de l'évaluation, des épreuves, etc. Alors, cette réflexion donc est menée sur les élèves. Les élèves, comme je l'ai dit, eux, se sentent très indépendants vis-à-vis de l'institution. C'est pas parce que c'est dans le programme qu'on doit leur enseigner. Ils se sentent pas tenus par le programme. Sauf dans une classe d'examen, peut-être. Bon. Mais les enseignants sont un peu plus liés par les règles institutionnelles. Mais tout de même, il me semble qu'il serait intéressant de regarder l'expérience enseignante de cet œil de la théorie de la résistance et de voir comment les catégories exit, voice, loyalty sont en quelque sorte mélangées, recomposées, puisque dans une espèce de résistance qui recompose les rapports entre ces différentes catégories. En outre, dans ce travail, si on transporte ces idées vers l'expérience enseignante, il faut sans doute prendre en compte le rôle des syndicats qui existent encore en France. Il y a des pays où ils ont été quasiment détruits, et jouent un rôle justement de filtre entre la prescription et le terrain. Il y a un livre très récent, dirigé par André Robert, sur justement le travail des syndicats, hein, le syndicalisme enseignant et la recherche, clivage au pluriel, usage au pluriel, passage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un travail permanent de reformulation, traduction, etc., qui est fait par les syndicats. On sait bien que dans beaucoup de cas, les enseignants connaissent les réformes un tout petit peu par les 5 minutes d'interview du ministre au journal de 20 heures et beaucoup par leur journal syndical. Donc il y a tout un travail là, me semble-t-il, de reformulation, etc., qui mériterait d'être conduit. Et il me semble, alors là, d'un point de vue de sociologue, que mieux connaître ses compétences, ses souffrances et ses compétences serait une manière de refonder et de reconstruire une analyse critique à partir d'une expérience qui se développe justement dans ce monde où les principes du management sont ancrés dans la prescription portée par le ministère. Et j'avoue, mais là cette conclusion est un petit peu engagée et off du discours scientifique, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement contrôlée sociologiquement, j'avoue que ça me semblerait utile d'avoir un développement d'une critique fondée sur l'expérience enseignante pour contrebalancer un mouvement qui s'est développé aux États-Unis dans les années 80 avec le rapport Nation at Risk, en Grande-Bretagne avec pas tellement le thatchérisme, mais beaucoup plus le blairisme, et qui nous arrive depuis quelques années en France, où on a exactement la même chose. Françoise évoquait le concept de résistance au changement. Moi, elle ne m'a jamais enthousiasmé, puisque résistance au changement, ça veut dire que tout changement est bon. Et que ça semble induire que tout changement est bon et que toute résistance est rigidité, etc. Est-ce que tout changement est bon? De même, là, les difficultés auxquelles se heurtent les réformes des ministres sont souvent attribuées justement au misérisme des enseignants, à leurs difficultés à s'adapter, etc. Est-ce que ces réformes sont si bien que ça, d'abord, si opérationnelles, si bien pensées? Et cela amène une espèce de critique des enseignants, où les enseignants sont considérés justement comme irresponsables. Et donc, le mouvement qui s'est amorcé aux États-Unis dans les années 80, puis en Grande-Bretagne, c'est de dire il faut changer le mode de pilotage de l'école. Et c'est vrai que le mode de pilotage de l'école repose largement sur les enseignants et sur leurs syndicats, etc. Et donc, avoir une espèce de pilotage par l'aval, c'est-à-dire ce sont les parents de classe moyenne qui, par leur choix des établissements, pilotent par l'aval le système. Et ce choix des établissements peut d'ailleurs être guidé par des indicateurs internationaux ou des choses comme ça. Alors, C'est effectivement la voie du néolibéralisme. Alors, il faut d'une part s'interroger sur cette idée d'irresponsabilité des enseignants. Des travaux comme celui de François, etc., montrent bien des gens qui ne sont pas du tout irresponsables, mais des gens qui, justement, alors, se débattent dans une situation difficile, mais cherchent à créer des nouvelles définitions du bien, des nouvelles normativités, des nouveaux principes de référence, etc. Et je serais un petit peu embêté que ce mouvement se développe trop en France, au moment où, aux États-Unis, il commence à être fortement interrogé par les sociologues de l'éducation. Dans le dernier numéro de la Harvard Educational Review, qui fête ses 75 ans, Jane Anion, qui doit, elle, fêter peut-être un peu plus que ça, enfin, qui est une très grande sociologue, renverse justement l'imputation de responsabilité ou d'irresponsabilité et pose la question, face à la montée de l'exclusion, de la très grande pauvreté, etc., est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger sur la responsabilité de l'État, enfin de la société dans son ensemble et de l'État, est-ce qu'elle met bien tous les enfants en situation de tirer profit de l'école, et est-ce qu'elle met bien l'école d'exercer, est-ce qu'elle réunit les conditions minimales pour que l'école puisse exercer son ministère de façon acceptable, hein. Je trouve cette interrogation extrêmement extrêmement maligne. C'est intéressant que, après une vingtaine d'années de travaux qui ont beaucoup porté justement sur le pilotage par Laval, enfin tout ce qui était la théorie de l'école efficace, etc., on pose maintenant autrement cette question de l'imputation de responsabilité.